Rubrique Il y a 130 ans. États-Unis, 1886. Le 1er mai. Le 1er mai 1886, le mouvement ouvrier américain lançait une grève générale nationale pour la journée de 8 heures. L'ampleur de celle-ci et la peur qu'elle inspira aux classes possédantes entraînèrent une répression féroce. Ce combat fut une des origines du choix du 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Après la guerre de sécession qui prit fin en 1865, s'enclencha aux États-Unis, entre guillemets, la plus importante période de développement économique de toute l'histoire de l'humanité, selon une formule de l'historien américain Howard Zinn. En moins de 40 ans, la grande bourgeoisie américaine constitua des empires industriels et financiers presque sans égal dans le monde, grâce à une main-d'œuvre presque sans limite, alimentée par l'arrivée de millions d'Européens et d'Asiatiques, et grâce à la complicité de l'État qui protégeait ses marchés de la concurrence des capitalistes européens en faisant payer tous les surcoûts à la population. C'est de cette période qu'émergèrent les premiers grands monopoles, comme ceux du pétrole, de l'acier, du tabac ou encore des chemins de fer. Premières luttes ouvrières. La classe ouvrière, qui était à la base de ce développement économique vertigineux, mena ses premiers combats très tôt. Dès les années 1880, ceux-ci prirent un caractère massif. L'organisation la plus importante et la plus représentative de cette période fut les Chevaliers du Travail. Knights of Labor, société secrète créée en 1869 par des tailleurs de Philadelphie, se plaçant plus du point de vue de l'artisan que de l'ouvrier industriel, mais vantant la solidarité universelle, elle se transforma en une organisation de masse qui résulta de la montée ouvrière. De 71 000 membres en 1884, elle passa à 110 000 en 1885 et presque 730 000 en 1886. À côté de cette organisation de masse, et parfois en son sein, militaient aussi des socialistes et des anarchistes, bien souvent d'immigration récente, qui avaient apporté avec eux les idées du mouvement ouvrier européen. En 1881 était également apparue la Fédération américaine du travail, American Federation of Labor, AFL, qui allait devenir, une dizaine d'années plus tard, le principal syndicat américain. Au moment où l'enrichissement de la bourgeoisie américaine lui permettait de corrompre une partie du mouvement ouvrier naissant, l'AFL devint un syndicat très corporatiste et même réactionnaire, ne syndiquant que les ouvriers qualifiés, jamais les femmes ni les travailleurs noirs. C'est cependant l'AFL qui, lors d'un de ses premiers congrès en octobre 1884, lança l'idée d'une grève générale qui imposerait la journée de 8 heures. Aux États-Unis, beaucoup de contrats et de baux commençaient le 1er mai et, symboliquement, et pour se laisser le temps de la propagande et de l'organisation de la lutte, le début de la grève fut donc fixé au 1er mai 1886. L'initiative déborda très largement les rangs de l'AFL, touchant les centaines de milliers de membres des Chevaliers du Travail qui s'en emparèrent malgré l'hostilité de leur chef. Ceux-ci étaient encore très imprégnés des préjugés des artisans qui ne voyaient pas d'un bon œil les grèves et surtout celles-ci dont l'ampleur s'annonçait considérable. Dans une circulaire secrète du mouvement, le dirigeant des Chevaliers du Travail s'était même clairement exprimé contre la grève. Ouvrez les guillemets. Les membres de l'exécutif des Knights of Labor n'ont jamais fixé le 1er mai comme jour d'une grève quelconque et ils ne le feront pas. Aucune section des Knights of Labor ne doit se mettre en grève le 1er mai pour le principe des 8 heures par jour. Fermez les guillemets. Mais la base du mouvement et la classe ouvrière en général allaient en décider autrement. Le 1er mai 1886. En tout cas, le samedi 1er mai 1886, qui aurait dû être un jour travaillé, 350 000 travailleurs de plus de 11 000 entreprises à travers tout le pays se mirent en grève. 11 000 personnes défilèrent à Détroit, 25 000 à New York. À Chicago, qui était le centre ouvrier le plus actif, entre 40 000 et 80 000 travailleurs manifestèrent accompagnés de leurs familles. À la fin, dans un meeting imposant, les leaders anarchistes, le tapissier Albert Parsons et l'imprimeur Auguste Spice, prirent la parole pour appeler à la poursuite du mouvement. Le lundi 3 mai, la grève continua et s'amplifia. Des grévistes allèrent devant l'usine de machines et outils agricoles McCormick qui employait des briseurs de grève. Là, la police chargea et tira dans la foule qui se dispersait, abattant 4 personnes et faisant de nombreux blessés. Immédiatement, August Spies rédigea un tract diffusé en allemand et en anglais pour dénoncer les meurtres de la police et appeler à un rassemblement le lendemain soir, 4 mai, au Haymarket Square, une grande place de Chicago. Alors que le meeting se terminait et que la police se mettait en position pour disperser le rassemblement, une bombe explosa, faisant des dizaines de blessés parmi les policiers, dont 7 allaient en mourir. En réponse, la police tira à nouveau sur la foule, tuant plusieurs personnes et en blessant près de 200. 8 responsables anarchistes, dont aucun n'était présent à Haymarket le 4 mai, furent arrêtés et condamnés à mort. Malgré les campagnes et les manifestations de protestation aux États-Unis mais aussi en Europe, Spies, Parsons, Fisher et Engel furent pendus. Le jeune charpentier de 21 ans, Louis Ling, fut retrouvé mort dans sa cellule. Et 3 autres, Schwab, Filden et Nib, qui réclamèrent la clémence du pouvoir, furent condamnés à la prison à vie, faisant au bout du compte 7 ans de prison. La répression mit un coup d'arrêt brutal au mouvement pour les 8 heures, mais une nouvelle mobilisation fut programmée pour le 1er mai 1890. La Journée internationale des travailleurs. En juillet 1889, à Paris, lors du congrès de fondation de l'Internationale ouvrière, qui regroupait des représentants socialistes et révolutionnaires du monde entier, un délégué français proposa d'organiser une journée de mobilisation internationale pour la journée de 8 heures. Le délégué américain rappela la mobilisation déjà prévue aux États-Unis pour le 1er mai 1890. La date fut alors reprise par l'Internationale naissante. Et il suffit du succès de cette première mobilisation commune des exploités du monde entier pour que le 1er mai s'impose comme une mobilisation annuelle et devienne un des symboles les plus importants du mouvement ouvrier. Outre ce symbole du 1er mai, la mobilisation ouvrière américaine inspira aussi les militants de la CGT française. 20 ans après la décision de l'AFL, la CGT, s'appuyant sur l'exemple américain, décida à son congrès de 1904 d'organiser une campagne en direction d'une grève générale pour les 8 heures devant commencer le 1er mai 1906. La grève eut lieu, entraînant des centaines de milliers de travailleurs pendant plusieurs jours. Elle ne permit pas d'imposer la journée de 8 heures, mais elle fut une véritable démonstration de force et une étape importante de la montée des luttes ouvrières qui précéda la Première Guerre mondiale. Pierre Royan.